nous allons parler aujourd'hui avec mon invité. Nous avons mis des moufles et un gros manteau pour évoquer l'aventure des pôles. Le spectacle ressemblait aux débris d'un monde qui aurait volé en éclats. James Forster, au large de l'Antarctique, janvier 1774. D'histoire. Il s'appelait James Cook, Dumont d'Urville, Barents, Nansen, James Ross, Robert Perry, Ernest Shackleton, Amundsen ou Charcot. Ils étaient anglais, français, hollandais, irlandais, américains ou norvégiens, et pendant plus de deux siècles, ils ont pris des risques insensés pour découvrir les dernières terres inconnues de la planète. Affrontant dans un paysage de glace, le froid, le blizzard et la solitude, dans laquelle beaucoup d'entre eux allaient mourir en essayant d'être les premiers à atteindre le pôle Nord, ou pour découvrir à l'autre extrémité de la Terre ce continent mystérieux dont parlaient déjà les Grecs il y a 2400 ans, l'Antarctique, vers lequel au XVIIIe siècle, l'amirauté britannique avait envoyé un de ses plus célèbres marins, James Cook.
Nous envisageons un nouveau voyage dans les mers du Sud. Il est impératif que l'Angleterre revendique de nouvelles terres. Et il reste encore, bien sûr, à élucider la question de ce fameux grand continent austral.
Milord, je doute que ce continent existe.
Je regrette, mais la plupart des scientifiques ne sont pas de votre avis, Cook.
Très franchement, Milord, ces messieurs ne retrouveraient pas leur chemin dans les squares de la Tamise.
Dois-je en déduire que... Si nous vous proposions le commandement, vous refuseriez catégoriquement de repartir à la recherche du continent austral ?
Oh, si vous décidiez de me confier le commandement, j'établirais la carte de l'hémisphère tout entier, des tropiques jusqu'aux régions polaires. Quoi qu'il existe dans ces parages, c'est mon devoir de le découvrir.
Ouvrez la voile !
La barre à tribord.
La barre à tribord, commandant.
De Abdeloua, bonjour.
Bonjour.
Alors ce voyage de Cook en 1773-1774 fait partie bien sûr de toutes les expéditions polaires dont vous parlez dans un beau livre, très beau livre, magnifiquement illustré, l'aventure des pôles, le pôle Nord, le pôle Sud, qui ont fasciné les hommes bien avant Cook. Hein, on en parle déjà depuis longtemps des
oui,
pôles.
Oui, ça a commencé il y a très longtemps, dès l'Antiquité en fait, avec Platon qui signale l'existence. Alors c'est une perception mythologique de l'univers nordique, avec le territoire d'Apollon et de l'Hyperborée. Mais la première date en fait historique d'exploration polaire est celle de Pythéas aux alentours de 330 avant Jésus-Christ, qui va partir dans les mers du Nord jusqu'aux limites de la navigation et qui va commencer à faire des observations qui s'avèrent être aujourd'hui sans doute véridiques et qui va dresser un portrait de cet univers qui n'avait jamais été géographiquement découvert.
Là, c'est le pôle Nord, c'est l'Arctique. Alors, Platon aussi parlait d'un continent, évidemment, que personne n'avait encore jamais vu, l'Antarctique. Il disait qu'il fallait qu'il y ait un continent comme ça à l'extrémité sud de la Terre pour la maintenir en équilibre.
C'était une question d'équilibre.
Bascule pas. Alors, cette Antarctique, c'est vers l'Antarctique que part James Cook, donc en 1773, et il va jamais le voir, en fait.
Bah, il va l'approcher, c'est-à-dire qu'il est l'un des premiers à approcher l'Antarctique. Il va franchir le cercle polaire et il va décider de retourner sur ses pas en constatant que la navigation est impossible. Mais il a quand même fait l'exploit, si vous voulez, de descendre, comme il le disait lui-même, vers le sud, plus loin qu'aucun homme ne l'avait jamais fait.
Pas loin, à 29 degrés du pôle sud, c'est-à-dire à 2000 km du pôle
à peu
sud
près.
Et à 200 km à peine de l'Arctique. Alors l'Arctique, il faudra encore attendre plus de 60 ans pour qu'il soit atteint. On dit que c'est le Français Dumont d'Urville qui arrive.
dans l'Arctique, sur une côte d'ailleurs qu'il appelle du nom de sa femme, il appelle la Terre Adélie.
La Terre Adélie, oui. Et alors là, c'est assez curieux de constater dans l'histoire polaire que il y a des coïncidences dans le temps où des hommes venant de d'endroits très différents se retrouvent quasiment au même moment. Alors il y a un débat sur qui est le premier à chaque fois dans plein de lieux. Dumont d'Urville est en concurrence avec Wilk qui mène une très grande expédition. C'est la première grande expédition américaine. Avec quatre navires, qui une expédition qui va être d'ailleurs qui va solder par un échec et la mise à pied de Wilk par l'armée américaine. Lundi, avoir vu la barrière avant l'autre, c'est difficile de découdre tout ça.
Alors, il y a un autre homme aussi qui est l'anglais James Ross, hein, qui lui arrive en 1841 au pied d'une immense falaise qu'on appellera bien sûr la barrière de Ross, hein,
qui
la
va
barrière
porter son
de
nom.
Glace. C'est à partir de celle-là, d'ailleurs, que plus tard, mais beaucoup plus tard, partiront les grandes expéditions sur le continent en direction du pôle sud. Alors, entre-temps, c'est au pôle nord que l'on s'intéresse, non pas pour l'atteindre, mais pour trouver un passage entre la banquise et la côte sud du Canada, le passage du nord-ouest.
200 lieues et maintenant un champ de glace droit devant. Est-ce le passage du nord-ouest?
Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre?
Un fleuve.
Juste l'embouchure d'un fleuve.
Sûrement pas.
En tout cas, l'eau est déjà moins salée.
C'est une terre impénétrable, commandant. Des rivages glacés, et à perte de vue des montagnes couvertes de neige.
Il faut repartir vers le sud. Sous peine d'être pris dans les glaces de l'hiver qui approche. Messieurs, s'il existe vraiment un passage, ce n'est pas cette année que nous le découvrirons.
Il faudra des années, en effet, pour qu'on découvre ce fameux passage. C'était quoi le passage du nord-ouest, Farid Abdelwahab?
Ben, en fait, si vous voulez, la configuration géographique est faite de telle façon qu'il y a des endroits assez étroits que les marins n'ont pas tout de suite découvert. Alors, certains en ont découvert, ça s'est tombé dans l'oubli. Je pense en particulier au détroit de Lancaster, qui est le premier accès dans la baie de Baffin pour pouvoir passer vers le détroit de Bering.
L'idée, hein, il faut le rappeler, c'est de passer de l'Europe à l'Asie en passant au nord
du Canada.
Où d'ailleurs il y avait aussi un passage du nord-est qui consistait à passer au nord de la Sibérie. Hein.
C'est ça, à allonger la Sibérie jusqu'au même détroit de Bering, effectivement. Alors pour le passage du nord-ouest, pour l'un comme pour l'autre, en réalité, ces tentatives sont provoquées par la situation géopolitique de l'époque. À la fin du 15e, avec le traité de Tordesillas, sous les auspices du pape Alexandre VI, le monde est partagé en deux et les Portugais et les Espagnols ont autorité sur les mers et sur les voies navigables. Donc les autres puissances européennes vont tenter de rejoindre l'Asie par les deux côtés du nord du Canada et du nord de l'Europe. Alors le passage du nord-ouest commence petit à petit avec des petites installations à la fin du 16e siècle. En particulier avec Martin Frobisher dans la terre de Baffin, ou John Davis, ou on connaît aussi l'histoire dramatique de Hudson qui fait deux essais pour le passage du Nord-Est et qui ensuite se retrouve en 1610 largué sur un bateau avec son fils et abandonné par ses marins.
En laissant son nom à une immense baie qui est au nord du Canada, c'est assez dramatique, hein, toutes ces expéditions. Il y en a une autre aussi qui est celle d'un Anglais, John Franklin, dont l'équipage va disparaître corps et bien au nord du Canada en 1847, là encore.
Qui va, en fait, avec l'histoire de Franklin, c'est un petit peu le début de la période héroïque de ces aventuriers du 19e. Sa femme va jouer un rôle médiatique important qui va populariser, en fait, les aventures polaires en initiant des recherches pour retrouver les restes de cette expédition. expédition.
Alors c'est en 1905 seulement, donc après plusieurs siècles de recherche, parce que c'est vrai qu'on est au milieu de toutes ces îles qui se trouvent au nord du Canada, coincées par les glaces certaines années, pas à d'autres, donc d'où la difficulté de ce passage, que un homme que manifestement à vous lire vous admirez beaucoup et qui est sans doute un des plus grands aventuriers de ces aventures d'épaule, c'est un Norvégien, c'est Amundsen qui en 1905 découvre enfin ce fameux passage du nord-est.
Oui, c'est nord-ouest. Nord-ouest. En fait, il part en juin 1903 sur le Gjøa et après plusieurs années de voyage, il s'arrête, il a trois hivernages dont un forcé. Le second est volontaire pour mener à bien. Alors on s'étonne du courage qu'ils peuvent incarner à ce moment-là. Le deuxième est volontaire pour mener à bien des expériences et des observations scientifiques. On atteint quand même des températures de moins 62 degrés dans les parages de King Point ou du Fort Yukon, là où ils vont hiverner la dernière fois. Et finalement, effectivement, en 1906, il arrive finalement au détroit de Bering et au port de Nome en septembre.
Alors ce qu'il y a de pathétique, c'est que on l'a cherché pendant des siècles, ce passage du Nord-Ouest. Une fois qu'on le trouve, une fois qu'Amundsen le franchit, finalement il servira pas à grand-chose pour la navigation maritime. Il est pratiquement sans intérêt. Alors ça ne décourage pas les explorateurs dont l'objectif, à la fin du 19e siècle, est de découvrir et d'atteindre cette fois-ci le pôle Nord, tout à fait l'extrémité nord de notre planète, le pôle géographique. Ce qu'un Américain prétendait avoir atteint en 1908, Frederick Cook.
Au pôle, nous avons passé deux jours dans un isolement complet. Nous étions heureux d'être là, mais nous n'avons rien trouvé de très beau, si ce n'est un désert de glace mouvant qui dérivait au gré du vent dominant. Ni vie, ni terre. Nous étions les seules créatures dans un monde de glace immense et sans vie.
Et c'était la voix de Frederick Cook qui prétendait avoir été le premier à atteindre le pôle Nord en 1908, le début d'une polémique dont on reparlera, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va dire, moi aussi,
j'y étais
en premier, c'est Robert Perry. Mais on sent bien à cette description que Cook... Frederick Cook, que c'est vraiment très difficile. Là, dans l'Antarctique, on est sur la Terre. Dans l'Arctique, on est sur la mer. C'est une mer de glace, l'Arctique.
Mais pour l'un comme pour l'autre, je pense qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer les souffrances que ces hommes ont pu endurer quand ils progressaient dans ces territoires-là. Il y a la question, évidemment, de la température. Il y a le blizzard aussi, les vents qui peuvent souffler jusqu'à 200 degrés parfois. Il y a la question des vêtements qui à l'époque étaient totalement inadaptés, le gel était permanent. Le concurrent de Cook va avant d'arriver au pôle Nord va perdre 8 orteils lors de ses pérégrinations. On a vraiment du mal à se mettre dans la peau de ces hommes dont on peut souligner aussi d'une certaine façon la folie. En travaillant sur le sujet, je me suis souvent dit mais qu'est-ce qu'ils allaient faire dans cette galère. D'autant que une fois qu'ils ont eu des expériences malheureuses, ça ne les empêche pas de retourner sur les lieux quelques temps plus tard avec autant d'énergie et de résistance.
Dans le Nord, je disais, c'est donc la banquise, c'est de la glace qui flotte sur de l'eau. Alors on a employé des de moyens. Il y a un Norvégien qui était Nansen qui lui essayait de se faire il a bloqué son bateau dans les glaces, il était bloqué pendant
pour le faire dériver
en espérant atteindre le pôle Nord. Il y en a un autre qui a tenté de le faire par ballon. Je crois qu'il était suédois.
Oui, c'est André, effectivement.
Salomon André dont le ballon a disparu quelque part.
Dont le ballon a disparu, il avait fait trois tentatives, la dernière a été un échec. Il a été perdu corps et âme. Il avait essayé d'aménager son ballon pour pouvoir mieux l'orienter, mais malheureusement ces petits ajouts techniques n'ont pas facilité les choses.
Énormément de morts dans ces aventures. Et puis alors on a préféré finalement, et c'est ce que fera Perry, utiliser donc la marche à pied. C'est tout simplement de partir du Groenland, comme le fait donc Robert Perry en 1909, pour se diriger à pied vers le pôle Nord.
The expedition comprising 24 men, 19 sledges, 133 dogs.
L'expédition comprenait 24 hommes, 19 traîneaux et 133 chiens. Pour le ravitaillement, quatre groupes se relayaient et revenaient par intervalle. Le dernier fit demi-tour au 88e parallèle. Le plus grand groupe sous mon commandement, 6 hommes, 5 traîneaux, 40 chiens, poussa par une marche forcée jusqu'au pôle lui-même, où nous arrivâmes le 6 avril 1909. Là, au milieu d'immenses étendues de glace qui couvraient l'océan par plus de 3 km d'épaisseur, avec le soleil qui tournait dans le ciel jour après jour sans arrêter, là, nous plantâmes la bannière étoilée.
Et c'était Perry, donc, qui déclare avoir atteint le pôle Nord, c'est-à-dire un an après Cook. Mais qu'est-ce qu'il dit, Perry? Il dit Cook est un mystificateur, c'est moi qui suis le premier arrivé au pôle Nord. Alors là, on n'a jamais très bien su ce qui s'est passé.
Je ne sais pas si vous connaissez cette illustration du petit journal qui était paru en 1909, où on voit Cook et Perry dans une, en train de se donner des coups de poing, agrippant l'un et l'autre le drapeau américain, entourés de pingouins qui constatent les dégâts d'une certaine manière. Ne me demandez pas de vous donner une réponse sur le véritable prétendant de la conquête du pôle Nord. J'en serais vraiment très très mal à l'aise pour y répondre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Cook a priori avait déjà dit avoir monté le mont McKinley quelques années auparavant et
en Alaska et on avait
démontré que c'était faux. Ensuite, il a été mis en prison pendant plus d'une dizaine d'années. Il en est sorti en 1930 pour malversation et escroquerie. C'est vrai que quand on voit le cursus de ce monsieur, on a du mal à croire à son exploit. Mais en même temps, c'est très difficile. Pour Perry, c'est aussi délicat parce que la révision de ses notes récentes une dizaine d'années en 1996, les experts ont suggéré qu'il n'avait pas véritablement non plus atteint le pôle Nord, qu'il était resté à une trentaine de kilomètres. C'est assez difficile. Alors, ce qui se passe, ce dont on est sûr en revanche, c'est que le 10 mai 1926, il y a un Américain à bord d'un aéroplane qui atteint bien le pôle Nord, c'est beaucoup plus tardivement, et que le 13 mai, trois jours plus tard, sur le Nord, le ballon dirigeable d'Amundsen et de Nobile arrive bien aussi au pôle Nord.
Alors là aussi, c'est une expédition assez tragique parce que il va y avoir ensuite des accidents. Il va y avoir on va rechercher un certain nombre d'hommes qui se sont perdus justement avec ce ballon. Et c'est d'ailleurs à la recherche de Nobile que Amundsen, le héros qui a découvert le passage du Nord-Ouest, va mourir. Mais entre-temps, Amundsen a réalisé, c'est dans ça qu'il est considérable, un autre exploit au pôle Sud, cette fois-ci, parce qu'on n'en parle plus depuis un certain temps, mais le pôle Sud, là aussi, on va voir une compétition se faire entre trois hommes, justement Amundsen, et puis deux Britanniques, Robert Scott et Ernest Shackleton, qui en 1909, Shackleton était arrivé à 175 kilomètres du pôle Sud avant d'être forcé de faire demi-tour.
Le 9 janvier 1909, le drapeau britannique fut hissé à 88 degrés 23 de latitude et à 162 de longitude est. Nous avons rebroussé chemin en jambant des crevasses, affrontant le blizzard dans la neige molle. Puis finalement, le 1er mars 1909, nous sommes arrivés au quartier d'hiver.
Et c'était encore une autre très vieille archive, la voix de Shackleton, personnage extraordinaire, autre très grande figure, Farid Abdelwahab, de cette aventure d'épaule.
Oui, c'est un enfant d'une grande famille, ils étaient 10, fils de docteur, qui a consacré sa vie aux expéditions polaires. Alors, l'expédition dont on vient d'entendre le récit, en 1907-1909, avait quand même permis à Shackleton... et à son collègue Marston de découvrir le pôle sud magnétique. Alors on sait que le pôle sud magnétique change de place au fur et à mesure
comme
du temps,
comme le pôle nord d'ailleurs.
Avec l'évolution de la Terre. C'est une expédition ratée parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il arrive à 175 km du pôle nord, mais en même temps. C'était à l'époque aussi un grand exploit.
Oui, parce que là, on n'est plus comme sur la banquise, on n'est pas sur de l'eau glacée, hein, on est sur un continent. L'Antarctique est absolument gigantesque, qui aura attendu des siècles avant d'être découvert, et où se trouvent des montagnes très élevées, il y a même un volcan d'activité, l'Erebus, hein, qui se trouve au pied de la barre, enfin au pied, devant la barrière de Ross, et là, il faut d'abord franchir cette barrière, cette espèce de falaise aussi, pour aller à l'intérieur, au pôle sud, qui est à plus de 2000 mètres d'altitude, je crois.
C'est ça, oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, la progression, il y a une première étape qui est, enfin, facile relativement, on va dire. Mais il y a effectivement cette progression en altitude qui doit s'effectuer et qui est la partie la plus difficile. Shackleton décide de rentrer, d'autres auraient pu forcer la mise. Lui décide de rentrer parce que il avait pour objectif de sauver toujours la vie de ses hommes lors de ses expéditions. Et c'est ce qu'on va retrouver lors de cette grande épopée en 1914 dite de l'Endurance, du nom du bateau qui va être pris dans les glaces, que Shackleton va diriger aussi.
Alors, il renonce donc à quelques kilomètres du pôle sud, Shackleton, en 1909, et c'est là qu'intervient la dernière course-poursuite, à l'assaut d'ailleurs du dernier continent ou du dernier point du monde qui soit encore totalement inconnu, vers le pôle sud. Hein, Shackleton a raté, et deux ans après, il y a deux hommes qui sont en compétition. On retrouve encore une fois Amundsen, hein, celui qui a encore découvert le passage du Nord-Ouest. On retrouve Amundsen et un autre homme qui est un Anglais, c'est Robert Scott. Alors là, c'est dramatique. Les deux hommes partent à peu près en même temps, en 1911, direction le pôle sud. Il faut que l'un d'entre eux arrive le premier.
Alors, Roald Amundsen avait gardé secret son objectif. Scott l'apprend au moment où il croise le bateau de Scott, croise le campement de Roald Amundsen, et c'est à ce moment-là que Scott apprend qu'ils sont tous les deux, si on peut dire, sur le même coup. Et alors, la grande différence entre Amundsen et Robert Falcon Scott, c'est que Amundsen me paraît être beaucoup plus organisé. Il a une logistique pour l'époque qui est réglée comme du papier à musique. Et le programme qu'il s'est défini va être totalement rempli dans les dates et dans les temps, ce qui est totalement exceptionnel. Il prépare son voyage avec minutie, et surtout son grand point fort, contrairement à Scott, qui lui va opter pour les poneys, Amundsen, lui, va opter pour les traîneaux à chiens. Et c'est ça qui va, d'une certaine façon, faire sa supériorité sur Scott. Alors, Amundsen arrive au pôle sud, va même demander à ses compagnons de faire 20 kilomètres autour du pôle sud, parce que doutant d'être bien arrivé véritablement au bon endroit, il préfère rayonner autour. Ça nous ramène aussi à ce qu'on disait sur Perry et Cook tout à l'heure sur l'exactitude du lieu auquel on veut précisément arriver. Et il va laisser une tente surmonté du fanion de son bateau, le Fram, et du drapeau norvégien, que Scott va trouver avec ses amis quelques semaines plus tard en 1912. Ils sont totalement épuisés, ils sont à bout de course, il leur manque des vivres. Ils arrivent sur place et ils constatent qu'Amundsen est arrivé un mois avant eux. Il a eu la délicatesse, si on peut dire, de leur laisser un courrier, puisqu'il savait qu'ils arrivaient par un autre endroit. Et à ce moment-là, pour Scott, on retrouve dans ses notes personnelles, c'est un échec cuisant.
Ben oui, mais c'est tragique même, parce qu'il retourne, et c'est sur le chemin du retour, après avoir découvert qu'Amundsen était arrivé un mois avant lui au pôle sud, c'est sur le chemin du retour qu'il disparaît.
Et c'est une des histoires les plus émouvantes, dramatiques et émouvantes. Alors, pourquoi ils disparaissent? Alors, l'équipe, ça devient une peau de chagrin. Les uns disparaissent après les autres. Ils finissent à trois avec Wilson, qui était son grand compagnon, qui était un grand artiste polaire, qui a pris en note tout le long du voyage tous les reliefs et les différents aspects de la progression. On les retrouve au mois de novembre 1912, gelés dans leur tombe naturelle sous leur tente. avec des lettres déchirantes écrites par Scott. Et en fait, on se rend compte qu'ils étaient seulement à quelques 18 kilomètres d'un dépôt de vivres. Ils sont morts de faim et de froid. Et à quelques 18 kilomètres, ce qui montre que les raids, si vous voulez, d'organisation et de repérage qui étaient faits avant la progression finale, étaient extrêmement importants. Et au kilomètre près, les dépôts de vivres pouvaient être fatales.
Alors désormais, les deux pôles ont été découverts, mais les expéditions polaires allaient continuer avec d'autres figures de l'aventure polaire, Charcot ou Paul-Émile Victor.
À Rouen, où vient d'arriver le vapeur norvégien Fjellberg, l'explorateur polaire Paul-Émile Victor est venu surveiller le chargement des vivres et des équipements de sa prochaine expédition arctique. 150 tonnes de matériel divers seront nécessaires pour assurer la réussite de cette expédition qui, partie de Reykjavik, hivernera sur la calotte glaciaire du Groenland. Bonne chance aux 34 pionniers de l'expédition polaire française.
Et c'était Paul-Émile Victor quittant la France en 1949 pour des expéditions polaires. À quoi ça sert, Farid Abdelwahab, d'aller encore qu'il y ait des expéditions polaires maintenant que les pôles ont été découverts ou atteints?
C'est sûr que la géographie est bien connue maintenant et il suffit de cliquer sur Internet pour voir combien notre Terre est quadrillée de nombreux regards.
Parce que votre livre parle énormément d'expéditions qui se sont produites depuis, après la conquête des pôles.
En fait, si vous voulez, aujourd'hui, l'aspect le plus important est l'observation scientifique. Donc, il y a différents registres, différents domaines dans lesquels les historiens, ethnologues, scientifiques interviennent. Il y a l'aspect ethnologique, parce que le monde inuit est encore un monde traditionnel, même s'il est
en perdition. C'est pour
l'Arctique, même s'il est en perdition d'un point de vue culturel, c'est quand il y a quelques restes. Ensuite.
Le travail de Mallorine aussi, dont on n'a pas parlé. Mais qui est un personnage extraordinaire, on l'a reçu souvent ici dans cette émission.
De Mallory, entre autres, et de Paul-Émile Victor aussi, qui, formé à l'école de Marcel Mauss dans les années 30, a tenu à s'inscrire dans la vie quotidienne des Inuits pour mieux en rapporter les us et coutumes. Aujourd'hui, la question climatologique, la question atmosphérique est au cœur en fait de l'observation polaire. Jean-Louis Etienne qui va bientôt partir dans une nouvelle grande expédition en ballon dirigeable compte bien lui aussi mener à bien justement des observations sur les effets de serre actuels.
Jean-Louis Etienne qui a préfacé votre livre.
Et il y en a d'autres. Je pense aussi à Claude Lorius qui part régulièrement en Antarctique pour étudier les glaces polaires et les carottes glaciaires pour pouvoir, on peut remonter jusqu'à 400 000 ans avant Jésus-Christ, pour pouvoir analyser l'atmosphère et les climats et surtout l'évolution de ce climat-là grâce aux bulles d'air qui sont prises dans les glaces et que l'on peut étudier.
Les climats du passé, mais alors ceux de l'avenir justement, ils sont plutôt compromettants pour ces pôles. Voilà une banquise qui pourrait disparaître d'ici une quarantaine d'années et la glace qui fond dans l'Antarctique. Est-ce que les pôles, ça existera encore?
En faisant
ça existera toujours, les pôles.
Ça existera toujours, mais ceux qu'on connaît et que l'on admire aujourd'hui, j'en doute. C'est évident que la banquise fond, que les glaciers reculent, et en fait tout le spectacle fascinant qui a animé tous ces aventuriers pendant des siècles, il risque bien aujourd'hui d'arriver au début de son terme.
Et sur dans des régions qui sont, en tout cas je pense à l'Antarctique, qui sont internationalisées. Il y a eu un traité en 1959 interdisant à 39 pays signataires de revendiquer des territoires et même d'ailleurs, je crois, d'en exploiter les richesses, car l'Antarctique pourrait être une prodigieuse réserve pour ce qui concerne les minerais.
Oui, absolument. Et ça, c'est une histoire d'ailleurs qui remonte loin, parce que dans l'Arctique, à la fin du XVe siècle, on avait cru trouver de l'or à foison, et l'idée d'un Eldorado avait même été évoquée, un Eldorado des glaces par le biais de Martin Faubrichère. Effectivement, peut-être que des richesses se cachent là. D'un point de vue scientifique, en tout cas, il reste énormément de choses à découvrir. On parle d'un lac gelé qui est en profondeur sur le continent antarctique. scientifiques et qui permettraient peut-être de faire des découvertes ou de trouver des restes de vie très très anciennes. Donc d'un point de vue scientifique, ça reste un terrain encore à défricher.
Et puis des choses à découvrir, on les découvre aussi dans votre livre, Farid Abdelwahab, L'aventure des pôles, préfacé par Jean-Louis Etienne, magnifiquement illustré. Il y a beaucoup d'illustrations faites par d'ailleurs un certain nombre de ces aventuriers des pôles, et un livre publié aux éditions Sélection du Reader's Digest, donc L'aventure des pôles de Farid Abdelwahab. À lire également Le grand défi des pôles de Bertrand Imbert et Claude Lorius, qui va être réédité aux éditions Découverte Gallimard à la mi-janvier 2007. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Capitaine James Cook de Lawrence Gordon Clark. Des informations sur notre émission sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Edwin Caron, Jessica Fouché, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.